Affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Marcher, mettre un pied devant l'autre, cheminer, progresser, flâner, crapahuter, parfois buter, tomber, se relever et puis toujours recommencer. Marcher, mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Y aurait-il dans cette activité banale matière à penser? Oui, répondent le neurologue Yves Agide et le philosophe Roger Paul Droit. Ces deux amis viennent de signer un livre aux éditions Albin Michel à la croisée de leur discipline. La marche reste une spécificité de notre espèce humaine. Elle mobilise nos pieds, mais surtout notre cerveau. Elle permet aussi de faire jaillir des idées. Par exemple, le mouvement de notre pensée pourrait peut-être se concevoir comme une marche. Dans cet échange, les questions se croisent et les hypothèses se confrontent pour notre plus grand bonheur. Nous sommes donc en compagnie d'Yves Agide, membre de l'Académie des sciences. Bonjour.
Bonjour.
Alors Yves Agide, pour commencer, êtes-vous vous-même marcheur et dans quelles circonstances marchez-vous?
Bon, je marche comme tout le monde pour me déplacer parce qu'on a des buts. Mais il m'arrive de me promener et il m'arrive surtout, comme nous sommes obligés d'avoir quelque activité intellectuelle ici, comme vous savez, d'écrire des articles scientifiques, médicaux, des bouquins. Et donc là, de temps en temps, on est bloqué, une sorte de blocage, c'est-à-dire que l'intelligence arrive à ses limites peut-être. On cherche des idées, une manière d'exprimer les choses, c'est-à-dire que c'est dans le fond et dans la forme. Puis on se lasse, on se fatigue. À ce moment-là, ce que j'ai pris l'habitude de faire, depuis très longtemps d'ailleurs, c'est de prendre un crayon, un bout de papier que je mets dans ma poche et je pars me promener quelque part, dans le jardin de Luxembourg ou à la campagne quand c'est possible, pendant un moment, de manière sans forcer, c'est pas une course contre la montre. Et je me suis aperçu que, bien souvent, à ce moment-là, quelques idées arrivent. Et donc, ces idées, il y en a qui sont originales. J'ai l'impression que c'est nouveau. Je suis content. Alors, je note aussitôt, parce qu'on oublie aussitôt. Et quand je reviens chez moi, généralement, je mets tout ça à la poubelle, parce que ça n'a aucun intérêt. Mais parfois, il y a une idée nouvelle. Et surtout, si je me suis posé la question au départ. Par exemple, vous dites... cette conclusion-là, j'aimerais lui donner, être clair, et puis dire quelque chose qui ne soit pas trivial, par exemple. Et on n'y pense plus, et pendant la promenade, ça vient, et on a la réponse. Et alors, à ce moment-là, ça aide énormément à propulser l'activité intellectuelle. Et moi, je le fais souvent avec beaucoup de plaisir.
Alors, c'est ce lien, justement, entre la marche et la pensée qui se trouve au cœur du livre que vous venez de sortir avec un ami, le philosophe Roger Paul Droit. Vous dites que vous avez beaucoup d'amis philosophes et que vous vouliez confronter un peu vos idées avec eux et qu'il fait partie de l'un des seuls qui était intéressé par le sujet. Qu'attendiez-vous de cette confrontation?
Ce n'est pas une confrontation, c'est un échange. Mais en même temps, vous avez raison, le mot est important. Effectivement, j'ai des amis philosophes que j'aime beaucoup, avec qui je suis très lié, mais ceux-là se posent des questions philosophiques, plutôt métaphysiques, pourquoi on doit faire ci, pourquoi on existe, etc. Et c'est vrai qu'en tant que scientifique et de médecin, on s'intéresse plus au comment ça marche. Qu'est-ce qui fait que je pense, qu'est-ce qui fait que je marche, par exemple, en l'occurrence dans ce bouquin. Et ça, c'est l'éternel problème, et fondamental problème, des deux silos séparés. Et c'est d'autant plus curieux que dans le temps, les scientifiques étaient philosophes, les philosophes étaient tous scientifiques. Pascal était philosophe, mais il était aussi mathématicien, physicien. C'est la même chose pour Descartes, pour Leibniz. Bien sûr, les philosophes grecs, c'était pareil. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est comme deux académies qui se sont séparées, deux silos, et qui ne communiquent plus ensemble. Et je pense que c'est absolument catastrophique, notamment pour l'éducation, pour la formation des individus, même depuis la petite enfance, mais surtout, évidemment, à l'université, avec, je vais être un peu méchant, mais avec deux idées qui se dégagent. La première, c'est que nos scientifiques, par exemple, dans l'Institut du cerveau, où j'ai quelques activités, à la Salpêtrière, si vous voulez, ils sont penchés sur leur microscope ou sur leur boîte de pétri, les boîtes de culture de cellules, mais ils sont complètement focalisés là-dessus, obnubilés par la publication dans des journaux de gros facteurs d'impact, en oubliant le contexte, en oubliant l'idée générale, en oubliant la prospective sur le long terme, la vision, les conséquences éthiques peut-être, mais aussi surtout les conséquences pour la société. Est-ce que ce que je fais a un intérêt du point de vue conceptuel ? Si tel est le cas, comment, pourquoi, est-ce que ce que je fais est utile, est-ce que ça va déboucher sur des théories nouvelles, ou alors des choses plus simples comme est-ce que je fais un intérêt pour la médecine, par exemple, est-ce que je vais trouver une cible pharmacologique pour produire un médicament, des choses comme ça. J'ai remarqué que ces questions, un jeune étudiant qui veut faire de la recherche, souvent il fait de la recherche sans penser à ces choses-là. Je trouve que c'est très très dommage. Tout ça pose la question d'une formation philosophique partout. Ce n'est pas d'apprendre la philosophie, c'est de donner l'esprit et de concevoir la recherche dans un contexte conceptuel plus général. De l'autre côté, alors ce serait plutôt à mon ami Roger Paul Droit d'en parler, ou à mes amis philosophes, je suis un peu déçu parfois, tel n'a pas été le cas avec Roger Paul, par le fait que les philosophes ont souvent un langage, les scientifiques aussi d'ailleurs, mais ce n'est pas toujours facile quand on lit un livre des philosophes, pas les anciens. Moi, je peux lire le discours de la méthode, je n'ai pas de problème. Mais souvent, les livres que j'ai l'occasion de lire ou de feuilleter, souvent, je suis obligé d'arrêter. Parce que c'est vrai, ce n'est pas des livres de vulgarisation, besoin de vulgarisation. Mais quand même, j'ai l'impression qu'on s'embrouille dans les mots, il y a beaucoup de mots. Et puis surtout, fondamentalement, c'est plus important, dans le fond pour les philosophes, c'est que je pense qu'ils auraient intérêt à apprendre de la science, pas de la science du métabolisme, de la physiologie ou de la biochimie, du foie, mais du fonctionnement cérébral. Parce que si on connaît comment fonctionne son cerveau, j'ai le sentiment qu'on devrait mieux faire de la philosophie. Si vous voulez, dans le temps, ce n'était pas possible. Même il y a 50 ans, on ne connaissait pas le fonctionnement du cerveau et encore moins comment il dysfonctionnait. Tandis qu'aujourd'hui, les progrès sont tellement exponentiels dans la compréhension du fonctionnement cérébral, qu'il y a quand même, on en est à l'aube du Moyen-Âge, hein, j'entends bien, on ne comprend pas tout, mais on connaît quand même les grandes routes, les grands principes du fonctionnement du cerveau, ce chef d'orchestre quand même insensé, et je pense que si les philosophes avaient quelques notions sur le fonctionnement de leur propre cerveau, d'abord ils pourraient valider mieux ce qu'ils disent, et ensuite ça leur donnerait plus d'idées.
Alors justement, nous allons nous intéresser au fonctionnement du cerveau. Quand nous marchons, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand nous marchons ? En réalité, c'est lui le pilote.
Alors, ça c'est très très compliqué à expliquer. Mais en simplifiant, vous avez une marche avec un but, on va l'oublier. Parce que généralement, vous marchez sans but. Par exemple, si nous sortons tous les deux, nous poursuivons cette conversation, on va pouvoir parler. et vous n'allez pas vous dire attention, je vais m'avancer le pied gauche, puis j'avance le pied droit, il faut que si j'avance le pied droit, il faut que je mette le bras gauche en arrière, etc. C'est quelque chose qui est automatique. Pourquoi c'est automatique d'ailleurs ? Parce que vous l'avez appris, c'est surappris, appris, depuis que vous avez 8 mois, 9 mois, 10 mois, 1 an.
Un apprentissage très long, d'ailleurs.
Jusqu'à l'âge adulte. Et d'ailleurs, avec le grand âge, ça s'altère. C'est un des plus grands problèmes du vieillissement. Bon. Et non seulement c'est automatique, mais en plus, c'est non conscient. Ce que j'appelle subconscient, pour ne pas dire inconscient à la connotation psychanalytique. Donc, c'est quelque chose de très, très particulier. Alors, si on parle de ça, l'ensemble de ces comportements automatiques, subconscients, sont gérés par des structures très anciennes du cerveau, dans la phylogénèse, dans l'évolution, qu'on appelle les noyaux gris centraux. Noyaux gris centraux, ce n'est pas très important, mais qui sont des toutes petites structures qui sont très, très volumineuses et qui constituent l'essentiel du cerveau, par exemple chez les reptiles ou chez les oiseaux, qui n'ont que des comportements automatiques. Il n'y a pas de raison de penser que ces animaux ont une conscience très élaborée d'eux-mêmes. Et par conséquent, quand vous marchez, ou quand vous avez d'autres activités automatiques, par exemple si vous dansez, si vous jouez au tennis, tous ces mouvements, vous les avez appris, ils sont automatiques et subconscients. Et c'est géré par ça. Alors, ce comportement de marche, et donc les noyaux gris centraux qui sont dans le cerveau, sont sous le contrôle quand même des structures plus récentes du cerveau. Et ces structures, c'est récente, alors que les noyaux gris centraux, c'est au centre du cerveau et à la base, c'est le cortex cérébral, c'est-à-dire la couche de cellules nerveuses, peu épaisse, mais enfin, ça représente quand même 20 milliards de neurones, à peu près. C'est ce qui permet d'avoir, au contraire, des comportements, je simplifie à l'extrême, hein, des comportements qui ne sont pas automatiques, par exemple la réactivité à l'inattendu, ou alors simplement d'essayer d'exprimer une pensée qui n'est pas complètement automatique, ce que j'essaie de faire maintenant. Et puis c'est conscient. J'ai conscience, par exemple, que je suis en face de vous et que je vous parle. Eh bien ça, c'est le cortex cérébral. Et le cortex cérébral est lié aux noyaux gris centraux, auxquels il donne des informations et dont il reçoit des informations en permanence. Et c'est ce couple cortex cérébral-noyaux gris centraux et qui est très intéressant pour comprendre la marche et la pensée. Par exemple, si je marche, je vais initier la marche. Ça, c'est mon cortex qui va le décider, ça, notamment à la partie antérieure du cerveau. Je vais m'arrêter, et puis c'est le cortex cérébral qui va me dire « vous allez redémarrer ». Donc, les noyaux gris centraux, les comportements automatiques, sont sous le contrôle de la volonté, en quelque sorte. Mais dans l'idée du bouquin, c'est l'idée de « je marche, donc je pense ». C'est une hypothèse qu'on a avancée, je pourrais vous raconter comment, parce que c'était un truc assez amusant. C'est vraiment dans une discussion avec Roger Paul-Droit qu'on a commencé à se mettre là. C'est-à-dire que quand vous marchez, c'est ce dont on parlait il y a un instant, parfois vous pensez plus, éventuellement différemment ou mieux. Eh bien, l'idée générale, c'est que quand vous marchez sans y penser, vous faites fonctionner vos noyaux gris centraux. Et l'idée, c'est que vous désengagez le cortex cérébral qui, lui, paresseux, est au repos. Il peut flâner, il peut vagnauder, il peut penser. Et peut-être, à ce moment-là, dans le chaos des pensées que nous avons en permanence, parce que le cerveau pense en permanence, jour et nuit, il peut peut-être avoir des idées qui apparaissent. Et il faut les attraper, parce qu'elles passent vite. L'idée qu'on a développée là, c'est qu'il y a possiblement ou probablement un corrélat anatomique, physiologique, à cette idée simple, reconnue par tout le monde, c'est que quand on a des activités automatiques, quand on prend la douche ou quand on fait le ménage ou quand on pèle des pommes de terre, ou surtout quand on marche, eh bien, tantôt des idées vous viennent. C'est ça le fondement du livre. Alors que Roger Paul, lui, avait une autre idée. C'était pour ça qu'on a eu ce débat.
Mais pour bien vous comprendre, du coup, cette idée que les idées nous viennent plus facilement quand nous marchons, quand nous avons cette activité automatique, pourrait se dupliquer sur d'autres activités automatiques. Peut-être que quand nous dansons, une autre activité automatique, ou faisons la vaisselle.
Ça, c'est vrai pour vous. Pour moi, quand je danse, je suis obligé de faire très attention à mes pieds.
Hein. Et bien, peut-être qu'à ce moment-là, en tout cas, des idées peuvent surgir. Est-ce que la marche sera un modèle pour comprendre le jaillissement des idées au cœur d'une activité automatique ?
La marche par rapport aux autres activités automatiques, vous voyez que quand Raphaël Nadal fait des revers croisés qu'on ne peut pas rattraper de manière automatique, évidemment, il est concentré sur ce qu'il fait. Le problème de la promenade, si on parle de la marche libre comme ça, c'est qu'en même temps, vous n'avez rien de particulier à penser, vous n'avez pas de tâche obligée, vous n'avez pas de but, votre attention n'est pas consacrée à quelque chose, et en plus, vous êtes dans un environnement délicieux, on a le temps, etc. D'ailleurs, les idées, par parenthèse, elles ne viennent pas dans la seconde quand vous marchez. Il ne suffit pas d'avancer, faire trois pas pour avoir des idées. C'est au bout d'un certain temps. Et puis surtout, il ne faut pas chercher à avoir des idées. Donc la promenade, elle s'intègre dans un contexte environnemental. Si vous marchez vers un camp de concentration, je ne pense pas que vous ayez des idées très satisfaisantes qui vous viennent à l'esprit. Si vous marchez dans la forêt de Fontainebleau, un dimanche, tranquillement avec votre famille, c'est différent.
Ce qui est intéressant, c'est que nous avons l'impression d'être à la croisée de ce que vous appelez le subconscient et de la conscience. Finalement, les pensées, elles sont partout aussi dans le subconscient, vous le dites. Et oui. Il y a ce moment où elles affleurent à la conscience et peut-être que la marche favoriserait cette sortie, cette conscience.
Oui, c'est une idée qu'on n'a pas développée là. Vous voulez dire que les pensées subconscientes qu'on a apparaissent à la conscience. C'est possible, parce qu'en effet, il y a des pensées et des émotions qui sont subconscientes. Mais le problème, c'est qu'il faudrait le prouver, ça. Vous pouvez le prouver comment ? Avec une IRM, par exemple, vous savez, ces grands scanners qui permettent de voir des activations de différentes parties du cerveau, ce qu'on appelle l'IRM fonctionnel. Oui, le problème, c'est que faire marcher quelqu'un dans une IRM fonctionnelle, c'est très difficile. Vous ne pouvez pas imaginer demander à quelqu'un de marcher avec un truc de plusieurs tonnes au-dessus de la tête. Alors, ce qu'on fait à la Salpêtrière, ce qu'on a fait avec mon groupe en particulier, c'était de demander aux personnes dans la machine, parce qu'on est allongé dans une IRM, de leur demander d'imaginer qu'ils pensent. Ça marche jusqu'à un certain point, ça marche, et c'est moins puissant, mais on peut le faire. Alors, je reviens maintenant à votre question des pensées subconscientes. Oui, l'idée que j'ai développée plusieurs fois, dans plusieurs bouquins d'ailleurs, et qui était celle de l'activité de mon groupe de recherche, dans le temps d'une partie de mon groupe de recherche, c'est que, en réalité, vous avez en effet des pensées, c'est-à-dire de l'intellect, et vous avez des émotions, parce que... l'activité humaine n'est faite que d'activités intellectuelles et émotionnelles. On ne va pas parler des activités viscérales dont on n'a pas conscience, ou de l'activité sexuelle, c'est un tout petit peu à part. Mais sans ça, quand vous prenez une décision, c'est toujours l'hybridation d'une activité intellectuelle logique, de la logique, si vous voulez, plus l'émotion. Et effectivement, il y a ça dans les noyaux gris centraux, et il y a d'ailleurs le corrélat anatomique. Il y a des circuits émotionnels, des circuits intellectuels, entre guillemets, dans ces structures subconscientes, automatiques, les noyaux gris centraux. Ce sont des pensées et des émotions qui sont automatiques et non conscientes. C'est ce qui fait que, justement, quand vous marchez, par exemple, vous avez des perceptions, vous êtes dans une allée, elle tourne à droite, à gauche, il y a des pierres, il y a des bordures, vous allez vous orienter. Tout ça, c'est géré par les noyaux gris centraux. Le cerveau reçoit des perceptions, il les gère par ses noyaux gris centraux et il agit de la même chose. Mais tout ça, c'est uniquement pour toutes les activités automatiques et subconscientes, c'est là que ça se passe. Et c'est vrai pour des choses extrêmement élémentaires, sur le plan intellectuel, par exemple, les tables de multiplication, pour des émotions que vous avez eues plusieurs fois et qui reviennent et qui, chaque fois, par exemple, si vous revenez sur un lieu que vous avez aimé, vous avez une émotion toutes ces activités automatiques sont gérées là, probablement. C'est encore un peu hypothétique, je l'avoue. Il faudrait le démontrer. J'ai beaucoup d'arguments expérimentaux pour le montrer, mais pas suffisamment pour aller jusqu'au bout de ma pensée.
Pour le prouver. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on sent bien la différence de votre démarche avec celle de votre ami philosophe. C'est que vous, vous avez besoin de démontrer les choses, de les prouver. Et lui, il le dit d'ailleurs au détour d'une phrase, pour lui, il suffit que cela soit possible.
Oui, mais c'est vrai, c'est pas tout à fait vrai ce que vous dites. Parce que justement, c'est l'avantage des philosophes. Effectivement, nous avons eu des débats, des désaccords assez importants.
Assumés.
Par exemple, pour la pensée et le langage, on a un débat qui est celui des philosophes. La plupart des philosophes, tous à ma connaissance, pensent qu'il n'y a pas de pensée sans langage. Et moi, j'ai des arguments, mais j'ai peut-être tort, pour penser que le langage n'est que l'instrument de la pensée, que la pensée précède le langage. On n'est pas tombé d'accord sur ce truc-là, mais vers la fin du bouquin, on discute ça. Alors, si on voulait aller plus loin, il faudrait voir, je pourrais vous dire en trois mots, qu'est-ce qui se passe quand on marche, par exemple, quand je décide de marcher, comment ça se passe dans le cerveau? Vous voulez que je...
Mais tout à fait, allez-y donc.
Bon, quand vous prenez une décision, vous vous imaginez en train de... Vous êtes immobile, là, maintenant, puis vous allez vous lever pour marcher. Comment ça se passe? Vous allez prendre cette décision en fonction de quoi? En fonction de deux choses. La première, c'est des informations. Par exemple, si je vous dis « venez par ici », vous allez venir. Puis l'autre chose, c'est votre cerveau fonctionne en permanence et vous avez des mémoires. Vous avez un enregistrement de mémoire absolument spectaculaire. Et donc, la conjonction de l'environnement et de vos mémoires va vous permettre de prendre une décision. Vous avez l'idée de partir. Et une fois que vous avez l'idée de partir, c'est très bien, mais la marche est très compliquée. La marche, ça comprend trois choses essentielles. D'abord, vous allez avancer les pieds, l'un après l'autre. Mais en même temps, quand vous allez faire ça, vous allez des déséquilibres permanents. Par exemple, pour démarrer, vous êtes obligé de... Pour lever le pied droit, si vous démarrez du pied droit, vous êtes obligé de balancer vers la gauche un peu, légèrement. On ne s'en rend pas compte. Et puis, c'est un déséquilibre rattrapé permanent. Et pour garder son équilibre, il faut adapter une posture. Par exemple, on adapte son tronc, on balance les bras, etc. Donc, quand je marche, j'avance, je garde un équilibre et j'adopte une posture. Les trois sont liés. Et donc, tout ça est parfaitement coordonné par le cerveau. Alors, s'il fallait dire, le cerveau devait dire, tiens, je vais avancer le pied droit. Et puis, si j'avance le pied droit, il faut que je rétablisse mon équilibre. Vous imaginez, ce serait la folie totale. Tout ça se fait automatiquement. Et se fait automatiquement, ça veut dire que vous avez vous-même dans votre cerveau un programme de marche complet que vous avez mis 15 ans à apprendre, parce qu'on ne marche pas la même manière quand on a 3 ans et quand on a 18 ans. Et donc, ce programme de marche est parfaitement établi. C'est la même chose, par exemple, pour des gens qui ont fait du sport jeune. Par exemple, si vous avez fait du ski ou si vous avez joué au tennis, vous arrêtez pendant 10 ans, vous vous remettez sur des planches de ski, vous repartez un peu moins bien, mais vous savez faire. Tout ça, c'est des programmes qui sont là. Donc, vous avez eu l'idée de marcher, vous mettez en route votre programme. Vous le décidez, vous décidez votre programme, vous le mettez en route et vous l'exécutez. Et tout ça, c'est fait par le cortex cérébral, ici, mais dans la partie frontale. Il faut savoir que la partie antérieure du cerveau chez l'homme, ce qu'on appelle le cortex frontal, qui représente le tiers du cortex de l'homme, qui est unique par rapport aux autres animaux. Certains animaux, à peine, d'autres n'en ont pas. C'est en fait quand même le patron du cerveau, et votre cerveau, c'est le patron de vous-même. Vous êtes votre cerveau, et votre cerveau, c'est vous.
Et que se passe-t-il en cas de trouble ou de pathologie de la marche, notamment chez les personnes âgées?
Alors, ça c'est compliqué, il faut faire là le docteur. Si vous voulez, il y a une chose fondamentale, c'est de distinguer les troubles de la marche d'origine orthopédique des troubles de la marche d'origine neurologique. Alors, moi, j'utilise le signe du maquignon. J'aime bien, c'est sympa.
C'est-à-dire
que Les maquignons, vous savez, diagnostiquent une entorse de la jambe d'un cheval à l'oreille. Et en écoutant marcher les gens, on reconnaît une petite boiterie, en fait. Quand c'est orthopédique, quand vous avez une arthrose du genou, voilà, on entend une boiterie. Donc, il faut d'abord éliminer toutes les choses orthopédiques. Alors, le truc épouvantable, c'est que je vois souvent, c'est-à-dire que les personnes âgées marchent mal. Alors, on va voir un podologue, puis le podologue, ce ne sera pas grand-chose. Et puis, on va voir ensuite un rhumatologue, un orthopédiste. Alors, on retrouve une petite arthrose du genou, et puis on opère le genou, et puis après, on fait une prothèse de hanche, etc. Ce n'est pas du tout le sujet, c'est dans le cerveau, en réalité. Parce qu'il y a un vieillissement, parfois pathologique, des structures cérébrales qui sont responsables de la marche, de l'équilibre et de la posture. Donc, c'est ça le problème. Donc là-dedans, les neurologues sont assez bons. Et c'est pour ça qu'ils regardent toujours les gens marcher. C'est essentiel. On veut voir dans la consultation comment ils se lèvent, comment ils avancent vers le cabinet de consultation, comment ils s'assoient. Déjà, moi je dis toujours qu'on a la moitié des diagnostics à ce moment-là. On ne fait pas un diagnostic juste sur la marche, hein. Mais ça donne des indications importantes. Et alors là, vous avez des marches très différentes selon les différentes parties du
cerveau.
Vous
y êtes d'ailleurs très attentif.
Oui, je suis très...
On marche unique comme un marqueur de chaque personnalité.
Ah, ça, c'est une autre chose. Mais pour revenir à la pathologie, vous avez on reconnaît facilement des atteintes des nerfs, des membres inférieurs, par exemple. On reconnaît assez facilement une atteinte de la moelle épinière, du cervelet, des noeuds gris centraux, du cortex. À chaque fois, il y a des troubles de la marche spécifiques.
C'est signé.
Alors maintenant, pour la personnalité, c'est très intéressant. Réfléchissez-vous même, on n'y pense pas. Mais on reconnaît tout de suite un peu la nature, le tempérament, la personnalité des gens, les voyant marcher. Alors, je parle là de certaines personnalités. Bon, vous voyez par exemple quelqu'un qui est déprimé, vous voyez tout de suite. Il marche comme ça, lentement, les bras ballants, la tête courbée en avant. Vous voyez ce que j'appelle le petit péteux superficiel, le PPS. Bon, c'est parce que c'est une blague, mais quelqu'un qui est un peu prétentieux, fat, qui marche. Vous avez la poulette du 16e arrondissement qui veut paraître faire la cocotte. Vous avez le jeune homme qui veut montrer qu'il roule des épaules, etc. Enfin, tout ça, on devine pas mal de choses simplement en les regardant. Alors, ceci étant, c'est vrai qu'en regardant le visage des gens, on voit encore mieux les choses. Mais voilà, donc ce qui veut dire que c'est très intéressant de bien observer les gens pour savoir à qui on a affaire.
Alors, il y a toutes ces particularités et puis ce que nous partageons finalement dans l'espèce humaine, cette marche qui est une spécificité. Est-ce qu'on a pu établir un lien entre le fait que l'homme soit passé à la station debout et le développement de son cerveau, de sa pensée?
Alors, vous savez, c'est encore un débat que j'ai eu avec Roger Paul, c'est que c'est très difficile de savoir ce qui s'est passé il y a 7 millions d'années quand Toumaï, le premier Homo sapiens, probablement, est apparu sur Terre. Et Homo sapiens sapiens, donc, qui est apparu probablement il y a 200 000 ans à peu près, je ne sais pas quoi. Évidemment, c'est très difficile de retrouver de manière rétrospective. Mais là, il y a le débat, je peux le résumer brièvement, c'est-à-dire que la plupart des gens pensaient ou pensent encore que l'homme, qui était une sorte de singe qui vivait dans les arbres, est descendu, il marchait à quatre pattes ou il grimpait aux arbres, et il s'est mis debout sur ses jambes parce que c'était en Afrique de l'Est et que là, il y a de la savane et que, comme ça, il s'est mis debout pour se protéger des prédateurs. Oui, c'est possible, mais je ne sais pas. Mais moi, j'ai deux principes en suivant, disons, les concepts de l'évolution darwinienne. Je me demande si ce n'est pas plutôt des mutations qui sont arrivées, qui ont fait que le cerveau de l'homme s'est considérablement développé et qu'à ce moment-là, l'homme a pu marcher debout. Et ce qui lui a permis, à ce moment-là, de se prémunir des prédateurs, en effet. Ben, c'est un débat, moi je suis incapable d'en parler. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'il faut valider une de ces deux hypothèses. C'est peut-être les deux. C'est souvent les deux, d'ailleurs. Et la science est un petit peu difficile à faire parce que, rétrospectivement, on ne dispose que des ossements, des longueurs de fémurs, des courbures du mérus, des tailles de différentes parties du crâne. Bon, je préfère que d'autres répondent à cette question.
Alors, vous nous avez expliqué ce qui se passait dans le cerveau quand nous marchons. Et quand nous pensons, est-ce que cela se passe de la même façon ?
Alors, oui, j'ai été très surpris. C'était l'objet de ce livre. Moi, j'ai rencontré Roger Paul Droit dans un dîner. On a commencé à échanger. Il avait écrit un livre sur la marche des philosophes. Je l'ai invité. Et il a dit quelque chose à laquelle je n'avais jamais pensé. C'est que quand on pense, en fait, on marche. Parce que lui, il marche dans sa pensée. C'est-à-dire que sa pensée, c'est un avancement avec des déséquilibres qu'on rattrape. On va à droite, à gauche et on finit par essayer d'aller droit. Je trouvais que c'était une idée intéressante, mais pour l'embêter, à la fin de cette conférence, je lui ai dit « Mais en fait, ce n'est pas du tout comme ça. Qu'est-ce que vous racontez ? Mais ce n'est pas vrai. En réalité, quand on marche, on pense mieux. » Donc, il y avait l'idée de « Est-ce que je marche, donc je pense ?» Ou est-ce que je pense comme je marche ? Et c'est le sujet du bouquin. Donc lui, il a bien développé, en parlant beaucoup des philosophes qui sont beaucoup de marcheurs, que ce soit les péripatéticiens, Socrate, Kant, Nietzsche,
Rousseau,
bien sûr, etc. Sauf Hegel, mais je préfère lui laisser.
Qui en prend pour son grade, même si en réalité, vous le dites dans le livre, que sa pensée est une pensée du mouvement et de la marche.
C'est-à-dire que c'est Roger Paul qui insiste là-dessus, il a raison. C'est-à-dire que Hegel, lui, restait immobile dans son bureau, il faisait ses cours et puis il ne bougeait pas. Mais en réalité, toute sa philosophie, tout ce qui est sa marche de l'histoire, la dialectique, qui est un avancement dans la pensée, en fait, ça va dans le sens, c'est peut-être même ce qui a contribué à Roger Paul à avoir cette pensée, qu'en effet, la pensée, c'est un avancement avec des déséquilibres. Alors, dans le livre, autant moi, je connais jusqu'à un certain point ce qu'on sait sur la marche, que j'ai dit résumé en quelques mots tout à l'heure. Pour la pensée, c'est un peu plus délicat, mais effectivement, lorsque vous décidez de penser, vous avez des perceptions extérieures, vous avez des mémoires qui vous amènent à avoir telle pensée, et vous l'exprimez, vous décidez de la pensée, vous la programmez, cette pensée, et vous l'exécutez, voyez ? Donc, il y a une certaine analogie.
Substrat
commun. C'est-à-dire que le cerveau, dès qu'il fait quelque chose, finalement, il utilise, et pas les mêmes circuits, bien entendu, mais les mêmes concepts. C'est-à-dire que dès que vous faites quelque chose, vous êtes amené à le concevoir, vous êtes amené à le décider, vous êtes amené à le programmer. Quand je dis programmer, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'informations qui sont issues de l'environnement et de vous-même, même peut-être des viscères, d'ailleurs, des informations qui viennent de vos organes, qu'il faut que ça soit programmé, ça. Et c'est seulement quand c'est bien décidé, bien programmé, que vous allez pouvoir l'exécuter et prononcer une phrase, peut-être, par exemple. Alors, ça, c'est compliqué, parce que ça peut être aussi une phrase consciente. Par exemple, vous dites quelque chose complètement inattendu, quelque chose qui est vraiment original. Vous avez une pensée nouvelle. C'est pas la même chose qu'une pensée automatique. Par exemple, quand je dis « par exemple », eh bien, c'est quelque chose d'automatique, parce que je n'ai pas besoin de réfléchir à ce que je fais. Mais si je veux dire quelque chose de profond, parce que je le sens, mais à ce moment-là, c'est encore une fois cette balance entre ce qui est conscient et ce qui ne l'est pas.
Alors, ce substrat est commun, et pourtant, la marche est une activité physique, et la pensée... Aujourd'hui, mais justement, nos connaissances du cerveau font un peu changer les choses. Nous la concevons comme quelque chose de très abstrait.
Alors justement, c'est ça qu'on j'ai voulu démythifier. Je pense que c'est vraiment la même chose. c'est que quand vous pensez à marcher, vous décidez de marcher, vous la programmez, comme j'ai dit, que vous l'exécutez avec vos jambes, avec votre corps, avec le balancement des bras, comme on l'a dit. Mais quand vous avez une pensée, vous pouvez la garder pour vous, mais vous allez l'exprimer. Avec quoi vous allez l'exprimer ? Avec votre langue, avec vos lèvres, avec votre gorge, avec l'ensemble de l'appareil de phonation, surtout avec votre larynx, qui est si puissant, ces quatre petits muscles de rien du tout qui peuvent nous permettre de parler, ce que ne font pas, par exemple, les grands singes. Donc, en réalité, c'est la même chose. Donc, on pense avec son cerveau, on exécute avec la phonation et on marche avec son cerveau, on exécute avec ses pieds, si j'ose dire.
Alors, pendant ces conversations avec Roger Paul-Droit, vous avez marché, vous avez pensé. Peut-être pour finir, sur quel point avez-vous avancé ?
Sur quel point on a avancé ? D'abord, personnellement, une connivence intéressante avec cet homme qui a donc une grande érudition et puis en même temps qui est très sympathique, quoi. Donc, pour moi, c'est ce qui est le plus fondamental. Maintenant, sur l'autre plan, c'est pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire essayer de limiter et de rapprocher, vraiment, je dis de manière grossière, de rapprocher la philosophie et la science. Que les scientifiques aient quand même un background philosophique suffisant, de façon à ce qu'ils cherchent dans leur recherche toujours à dégager des concepts ou des activités pratiques. Et que les philosophes tiennent compte de la science, dans le fond, pour avoir des idées nouvelles et pour valider leurs idées, et dans la forme aussi, peut-être, pourraient profiter quand même de la rigueur, de la concision et de la clarté des scientifiques, par définition. Alors, je le dis, c'est pas très gentil pour mes amis philosophes, mais je pense qu'ils auraient intérêt à prendre... à imiter un petit peu la manière de penser des scientifiques, dans ce sens, voilà. Et donc, je pense que les deux, et alors ça, c'est très important pour la formation des enfants à l'école et des étudiants à l'entrée de l'université et des chercheurs, une fois qu'ils sont devenus des chercheurs. Je pense que ça, c'est très, très important.
Ce dialogue, nous le retrouvons dans votre livre. Je rappelle donc le titre « Je marche, donc je pense, le philosophe et le neurologue » par Roger Paul-Droit et Yves Agide aux éditions Albin Michel. Un grand merci d'avoir été avec nous.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Et à bientôt.
À bientôt, au revoir.